Au fil de l'histoire, Patrick Liégibel. Révolution dans les 60s, la mini-jupe, de Caroline de Kergariou. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Les années 20 ou années folles voient la première grande révolution de la mode féminine. Le corset disparaît et les cheveux raccourcissent, tout comme les ourlets, à la grande joie des sportives qui ne sont plus obligées de courir derrière leur balle de tennis engoncées dans une robe traînant jusqu'à terre. Ironiquement, moins de 2 ans après la libération, Christian Dior emprisonne la femme dans une moderne version de la crinoline qui nécessite 20 et parfois jusqu'à 40 mètres de tissu. Coco Chanel, qui avait tant œuvré à libérer le corps féminin, est consternée. Par contre, après les restrictions dues à la guerre, les producteurs de textiles sont à la fête. En 52, Balmain lance sa collection Jolie Madame, dont l'intitulé annonce la couleur, destinée à la femme riche de 30 ans et plus. La haute couture parisienne donne le ton au reste du monde. Cependant, le prêt-à-porter est en train de naître.
Tu as vu ce tissu? Cette faille prune, j'adore! Chic et cependant discret et pratique. C'est tout l'intérêt d'un ensemble. Tu peux tranquillement faire les boutiques l'après-midi et le soir, abracadabra. Tu enlèves juste la veste. Avec la robe toute seule et 3 rangs de perles, te voilà la plus élégante pour aller au théâtre.
Elisabeth, je te rappelle que l'après-midi, tu es sténodactylo. Tu ne vas pas mettre de la faille prune pour taper à la machine. Viens maintenant, vite. On va rater le bus. Et puis, de toute façon, tu n'auras jamais les moyens de te payer un ensemble pareil. Ne me regarde pas avec ces yeux-là, s'il te plaît. Je ne suis qu'étudiant, je n'ai pas un rond.
C'est bien toi, ça. On regarde de jolies choses, on se permet de rêver un peu, et toi, terre à terre, tu ne trouves rien de...
Vite, je te dis, il arrive.
Richard ! Attends-moi !
Essaie de courir, ma chérie. Le prochain passe dans plus d'1 heure, et si on rate celui-là ?
Mais comment tu veux que je cours ? Richard ! J'ai cassé mon talon.
Et ben voilà, on l'a loupé.
Ne me dis pas que c'est de ma faute.
Ben, ce n'est pas de ta faute, c'est celle de cette jupe ridicule. Entravée au niveau des mollets, on n'a pas idée. Et puis aussi, mettre des talons aiguilles pour aller travailler. Si tu étais invité à un cocktail, je ne dis pas.
Et tout le monde s'habille de cette façon, Richard. C'est la mode.
Ben, elle est stupide, cette mode. Jolie, mais stupide.
Sans même parler des pieds bandés des Chinoises d'antan, l'habillement féminin a toujours eu pour objectif, plus ou moins conscient, d'entraver la liberté de mouvement. La femme se doit d'avoir une démarche trottinante. Si elle fait de grandes enjambées, on lui reprochera, et dès son plus jeune âge, de n'être pas féminine. Pourtant, le vent est en train de tourner. En 1956, l'apparition de Brigitte Bardot dans « Et Dieu créa la femme » est un électrochoc. À l'antipode de la jolie madame, si polissée et sophistiquée, les pieds nus et les cheveux libres de bébé évoquent la sauvagerie, pour ne pas dire le sexe. Au Royaume-Uni, la récente gratuité de l'enseignement supérieur ouvre pour la première fois les écoles d'art aux jeunes gens issus de la classe ouvrière. Ils en sortiront pour faire du pop art, du rock, comme John Lennon ou David Bowie, ou bien de la mode. C'est le départ du Swinging London. Pour travailler commodément, les étudiantes privilégient pantalons, jupes courtes, collants épais et talons plats. Une fois diplômée, Mary Quant saura s'en souvenir. Elle ouvre sur King's Road une boutique appelée Bazaar, entièrement aménagée par Terence Conran, qui n'a pas encore fondé Habitat.
Mmh. Maman, tu as vu cette jupe? Elle est adorable, tu ne trouves pas?
Mais elle découvre les genoux, Pamela, c'est extrêmement choquant. Daddy et moi, on veut te faire un beau cadeau pour Noël, mais je ne veux pas que ma fille s'exhibe dans la rue à moitié nue. Ah non, pas question.
Mon uniforme à l'école, il était aussi court.
Tu ne vas plus à l'école, ma chérie, tu es une femme désormais.
Je suis peut-être une femme, mais pas une lady. Je veux porter des trucs rigolos.
Oh, Pamela, rigolo ne veut pas dire vulgaire. Cette Mary Quant cherche manifestement toutes les occasions de se faire remarquer. Un défilé de mode avec des mannequins qui brandissent des fusils. Non, mais je te demande un peu. Et en musique, encore en plus. Tu trouves ça convenable?
Si je ne peux pas avoir une jupe de chez Bazaar, je vais aller en acheter une chez Biba.
Je ne te donnerai pas un penny, Pamela.
Chez Biba, tout est à 3 livres. Alors tu vois, même si je te donne presque toute ma paye le samedi, et c'est normal puisque je vis chez vous, j'ai quand même réussi à économiser 3 livres.
Pamela, mais que va dire ton père ?
À Londres, en ce début des 60s, les baby-boomers commencent à avoir leur propre argent et une idée bien précise de la façon dont ils vont le dépenser. Ils veulent une musique à eux, la pop, et une mode à eux. On les nomme les modernists. Ils sont plus connus sous l'abréviation de mods. Pendant que les Britanniques vivent dans la fièvre le début de la Beatlemania, de l'autre côté du Channel, Télé 7 jours orchestre un véritable psychodrame à dimension nationale. On est en 64 et la speakerine Noëlle Noblecourt vient d'être renvoyée par son directeur Raymond Marcillac. Le motif, qu'on en juge.
On voyait ses genoux à l'antenne. Et en plus, elle le faisait exprès.
De très jolis genoux, si tu veux mon avis.
Richard, tu es impossible. Joli ou pas, ce n'est pas la question. On ne montre pas ses genoux dans une émission destinée à toute la famille. C'est vulgaire. Je suis bien contente qu'on l'ait remplacée par Jacqueline Monsigny. Elle, au moins, c'est une dame. On voit tout de suite.
Mais je n'aime pas ses mines sucrées à celle-là. Elle est un brin chichiteuse.
Et puis c'est une noble, une vicomtesse à ce qu'il paraît.
Une vicomtesse? D'où tu sors cette ânerie?
La vicomtesse de Châtelet. Oui, monsieur, c'est dans Télé 7 jours. Même qu'on peut voter pour dire celle qu'on préfère.
C'est tout vu. Je préfère Noëlle Noblecourt. Elle a l'air d'une vraie personne, elle. Naturelle et tout.
Oui, naturelle, oui. Il y a des camps de naturistes pour des gens comme ça. Elle n'a pas besoin de venir s'exhiber à la télévision.
S'exhiber? Tu en as de ces mots?
Je comprends que cette fille plaise aux messieurs, mais vois-tu, les femmes, elles, préfèrent Jacqueline Monsigny.
Outre-Manche, une autre jeune femme se fait remarquer pour ses tenues très courtes à la télévision. Katie McGowan présente l'émission de rock Steady Ready Go.
Nous venons d'écouter My Generation du groupe The Who. Merci Roger Daltrey, merci Pete Townshend. On les applaudit bien fort. En quelques semaines, ma génération est devenue l'hymne des jeunes. Les gens font que nous rabaisser. Pourquoi vous vous tirez pas tous? Je veux crever avant d'être vieux. Essayez pas de piger ce que je dis sur ma génération. Je cherche pas à faire grosse impression. Je parle seulement de ma génération. Pourquoi les mods, à votre avis, se retrouvent-ils dans ces paroles? Roger, vous voulez répondre?
Grâce à sa fraîcheur, sa charmante maladresse d'élocution et ses tenues s'arrêtant 13 cm au-dessus du genou, Katie McGowan devient la reine des mods. Quand sa direction lui enjoint de rallonger ses jupes, elle réplique en créant la British Society for Miniskirts. En 64, de son côté, David Jones, qui ne s'appelle pas encore Bowie, crée The Society for the Prevention of Cruelty to Men with Long Hair. Ces deux associations reflètent les revendications de l'époque, jupes courtes pour les filles, cheveux longs pour les garçons. À Paris, un ancien ingénieur des ponts et chaussées, André Courrèges, crée l'événement avec sa collection 65, toute blanche et argent, intitulée Space Age, l'âge de l'espace. Ces mini-jupes trapèzes font scandale, tout comme l'emploi de nouveaux matériaux comme le vinyle.
Richard, pourquoi tu m'as emmené voir ce truc épouvantable?
Un défilé de haute couture. J'ai cru que tu aimerais ça, ma chérie.
De haute couture?
Ne me fais pas rire, Richard. La haute couture, c'est Dior. C'est Balmain, Givenchy. Pas ce petit monsieur Courrèges avec ses filles déguisées en cosmonautes qui sautent en l'air sur une cacophonie. Mais alors, une cacophonie? Même ton fils fait des bruits plus harmonieux en tapant sur une casserole.
Cette cacophonie, comme tu dis, ma chérie, on appelle ça de la musique concrète.
Qu'est-ce que j'en ai à faire de ta musique concrète? Depuis que tu es journaliste, tu n'arrêtes pas de me prendre de haut. Mais regarde, regarde les autres invités. Ils sont tous en train de se sauver, les mains sur les oreilles. La prochaine fois que ta collègue de la rubrique mode te donne une invitation pour un défilé, vérifie qu'il s'agit d'un vrai couturier, quelqu'un qui crée des robes.
Des robes qu'on peut porter.
Laisse-moi rire.
Mais non, triple bus, des robes qui font rêver. Pas des espèces de ceintures en plastique sur des collants à grosses côtes. Avec des petites bottes en plastique aussi, comme en ont les enfants, et des casques de chantier, c'est d'un sexy, franchement. En plus, il n'y a pas plus salissant que le blanc.
Là, je retrouve ma petite ménagère adorée.
La Mini a enfin la caution d'un grand couturier parisien, ce qui, paradoxalement, profitera non à Paris, mais à Londres. Le Swinging London qui donne désormais le ton au monde entier. Même si les bonnes dames de Melbourne se scandalisent de voir le mannequin Jane Shrimpton arriver aux courses vêtue d'une robe qui s'arrête 10 cm au-dessus du genou. Il faut dire qu'elle a aggravé son cas en ne portant ni gants, ni bas, ni chapeau, tous accessoires de rigueur à l'époque. Shocking. 65 est véritablement l'année de la Mini. Quand la princesse Margaret se met à emporter, la reine d'Angleterre se voit contrainte de statuer sur la longueur permise par l'étiquette à la cour, 2 pouces au-dessus du genou. Si de nombreux pays communistes stigmatisent en elle le symbole de la décadence capitaliste, la Pologne et la RDA finissent par l'admettre au point qu'en 73, l'uniforme des contrôleuses de la Deutsche Reichsbahn, l'équivalent est-allemand de la SNCF, comportera une jupe s'arrêtant 20 bons centimètres au-dessus du genou. Étonnamment, dans le même temps, les Pays-Bas interdisent la Mini. Quant à Coco Chanel, jamais elle ne s'y fera.
Oh. Monsieur Courrèges, quel mal il fait à la mode. Quel mal il fait à la femme.
Vous n'aimez pas sa collection? Une ligne si sobre qui respecte le corps, j'aurais cru.
Ma chère, vous ne savez pas ce que vous dites. Comment pourrait-il respecter le corps, puisqu'il ne respecte pas le genou?
Le genou?
Oui, le genou. Vous savez, la partie la plus laide du corps humain. On l'appelle le genou. Si on a le moindre respect pour lui, on ne force pas à s'exhiber, le pauvre est vilain comme il est. Mes robes ont toujours couvert le genou. Et voilà que Courrèges nous l'inflige dans chaque modèle de sa collection. C'est honteux.
Je vais trouver beaucoup de fraîcheur à sa collection. C'est jeune.
Oh, pour être jeune, c'est jeune. Il n'habille pas la femme, il la détruit. Il cache ses formes, il la transforme en petite fille. Une femme habillée en Courrèges n'a plus une once de féminité. Or, ma chère, les hommes n'aiment pas les petites filles. Ou alors, s'ils les aiment, ils les tuent. Donc, croyez-moi, ma petite, l'année prochaine, on ne parlera plus de cette mode ridicule qui n'a déjà que trop duré.
Pourtant, elle semble avoir bien pris auprès des jeunes. Regardez en Angleterre cette petite styliste, Mary Quant. On l'a même comparée à vous, mademoiselle. On a dit qu'elle avait libéré le corps comme
vous-même. Comparée à moi? Qu'y a-t-il de comparable? Je me le demande.
Elle a beaucoup d'admiration pour vous, paraît-il.
Venant d'une personne comme elle, il s'agit d'un très petit compliment.
Courrèges avait ouvert la voie en France. Dès l'année suivante, les autres couturiers allaient s'engouffrer dans la brèche, comme Yves Saint-Laurent avec sa robe Mondrian, ou surtout Paco Rabanne et ses célèbres robes importables en plastique ou en métal. Coco Chanel n'allait pas manquer de surnommer ce dernier le métallurgiste. Dès ce moment naît la controverse qui n'est toujours pas tranchée aujourd'hui. Qui, de Mary Quant ou de Courrèges, a inventé la mini-jupe? Coqueline Courrèges déclare que la styliste britannique s'est inspirée d'une présentation faite à Londres par Courrèges en 64. Paco Rabanne, quant à lui, assure que c'est Emmanuel Kahn qu'elle a plagié. Cependant, les premières mini-jupes de Quant datent de 62. Mais elle en aurait trouvé l'idée à la boutique des arts de Saint-Tropez. Une seule certitude, la mini-jupe était dans l'air du temps depuis le début des années 60. Si en 65, elle découvre déjà largement le genou, elle continue à raccourcir au cours des années suivantes, entraînant une révolution dans les dessous.
Tu es prête, chérie?
Ah, tu as raison. Prends ton temps. Il faut que tu sois la plus belle ce soir. C'est pas tous les jours que mon rédacteur en chef m'invite à dîner.
Je ne trouve pas ma pochette de soirée. Tu ne l'aurais pas vue, par hasard?
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Une mini-robe. La nouvelle ligne de Monoprix.
Non, tu ne vas pas aller chez mon boss habillé aussi court. Il est vital pour ma carrière, ce dîner.
Je croyais que tu adorais la mini.
Il y a mini et mini. On va voir ta culotte si tu t'assois.
Mais là, aucun risque. J'ai mis un collant. Tu sais, les nouveaux dîmes, sans couture. On est bien dedans. Tu peux pas imaginer. Terminé, les bas. Poubelle.
Plus de bas? Plus de porte-jartelle non plus, alors?
Cet instrument de torture moyenâgeux. Je suis bien contente d'en être débarrassée, tiens. Comme des jupons, des combinaisons, des gaines. Je me demande comment j'ai pu supporter tout ce bazar. On se sent libre comme l'air avec cette nouvelle mode. C'est merveilleux.
Plus de lingerie non plus? Plus de frou-frou? De dentelle, de soie, de broderie anglaise? Et les talons hauts? Terminés aussi? Désormais, tu porteras toujours des bottes plates, même le soir? Si au moins c'était des cuissardes?
La mode change, Richard. Tu m'as assez reproché mes tenues classiques.
Oui, mais en dessous, j'adore ce que tu mettais en dessous de tes tenues classiques.
Si j'achetais une guêpière, juste pour nous deux.
Une guêpière? Oh, ma chérie, tu ferais de moi le plus heureux des hommes.
Les mannequins tels Twiggy au Royaume-Uni ou Peggy Moffitt aux États-Unis sont indissociables de la mini-jupe. Mais en France, cette dernière sera surtout popularisée par les jeunes chanteuses yéyés, Sheila, France Gall, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, dont la silhouette longiligne se prête particulièrement bien à l'exercice. Elle aura longtemps pour costume de scène un ensemble tunique-pantalon blanc de Courrèges. Dans le livre de Bianca Lang, Coqueline Courrèges raconte comment cet ensemble fut indirectement à l'origine de la mini-jupe Courrèges. À New York, ainsi accoutrée, on nous refusa l'entrée dans les grands restaurants. Les femmes en pantalon étaient mises à la porte. Nous avons dit à nos mannequins « Allons aux toilettes et quittons nos pantalons !» Ressortions sans pantalon, avec juste les tuniques ultra courtes. C'était quasi indécent, mais de cette façon, nous pouvions rester. Françoise Hardy jouera aussi les mannequins pour Paco Rabanne, en particulier en plein mai 68, lors de l'exposition internationale des diamants, où elle porte, et le terme ne pourrait être mieux choisi, une robe en plaquettes d'or d'un poids de 9 kg, enrichie de 300 carats de diamants. Son prix, 12 millions de francs, qui équivalent à environ 14 millions de nos euros. À Londres, en 66, la mini-jupe, qui semblait avoir définitivement triomphé, est brutalement menacée. La British Society for Preservation of Miniskirt se mobilise.
Pamela, tu es rentrée? Oh, Pamela, je t'attends depuis des heures. Oh, tu as l'air épuisée. Tu veux du thé? Qu'est-ce que c'est que cette banderole?
J'étais à la manif. Excuse-moi, je peux plus parler, j'ai trop crié.
Mais quelle manif? Nous avons toujours été de fidèles sujets de sa gracieuse majesté, nous ne manifestons pas.
On n'a pas manifesté contre le gouvernement, on a manifesté contre Dior. Tu sais, le couturier français, regarde.
La mini-jupe pour toujours?
La mini-jupe pour toujours. La mini-jupe pour toujours.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
La nouvelle collection de Dior, elle est beaucoup plus longue. Nous, on veut pas que la mini-jupe disparaisse.
Vous avez manifesté pour défendre la mini-jupe contre la nouvelle collection Dior qui rallonge?
Ben oui. Avec la British Society, tu sais bien. On a défilé devant le magasin Dior avec nos pancartes. Il faut réagir tout de même. On va pas se laisser faire. La mini-jupe pour toujours. La
mini-jupe. Surtout, n'en parle pas à ton père. Hein. Déjà que pour lui, quand on porte une mini-jupe, il ne faut pas s'étonner de se faire violer. Si en plus, il apprend que tu participes à des manifestations... Oh my God! Bon, tu prendras du lait dans ton thé ?
Oh non, merci. Il faut que je fasse attention. J'ai pas envie de grossir. T'as vu Twiggy comme elle est mince ?
Moi, chérie, Twiggy pèse 40 kilos. Elle est comme ça, c'est dans sa nature. Prive-toi de lait tant que tu voudras, tu ne seras jamais comme elle.
Bien sûr que non. Quand même, j'aimerais bien perdre quelques kilos.
Tu es parfaite comme tu es, crois-moi. J'ai acheté une jupe cet après-midi. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses.
Pourquoi tu veux mon avis ?
Tu me diras si j'ai l'air trop ridicule.
Non. Tu as acheté une mini-jupe ? Pour toi ?
Oh, toutes ces jolies boutiques à Carnaby Street. Je n'ai pas pu résister.
Oh, maman, tu ne vas pas mettre une mini-jupe ? Pas à ton âge ?
Un phénomène inédit vient de prendre naissance, la mode des jeunes. Auparavant, les jeunes filles s'efforçaient d'imiter leur mère, désormais, c'est l'inverse. En 50 ans, ce phénomène aboutira au terrorisme de l'âge que l'on connaît aujourd'hui. Les années 60 voient aussi la métamorphose de la confection en prêt-à-porter, terme beaucoup plus vendeur, et la multiplication des boutiques qui le commercialisent. Les jeunes filles peuvent désormais y trouver à prix abordable des vêtements créés pour elles par de jeunes stylistes. Elles s'habillent avant tout pour exprimer leur personnalité et de moins en moins pour plaire à l'homme qui voudra bien les épouser. Le pantalon se généralise, même si en 68, on compte encore 54% d'entreprises françaises qui en interdisent le port à leurs employés. En 69, les jupes deviennent si courtes qu'on aperçoit la culotte, mais cette année-là est le champ du cygne de la mode mini. Dès 70, les ourlets rallongent. Ils atteindront le sol avec les robes chemises de nuit des hippies. Au début de cette même décennie, Mary Quant, encore elle, lance les hot pants, ou shorts en bon français, que l'on porte avec des cuissardes. Après quelques allées et retours à l'époque punk, puis dans les années 80 et dans les années 90, et qui reflèteraient, selon certains, la plus ou moins grande confiance dans la situation économique, les années 2000 voient le triomphe d'un nouvel avatar de la mini-jupe.
Richard, attention, regarde où tu vas te faire renverser.
Quel joli cycliste. Je n'avais pas vu une jupe aussi courte depuis les tiennes, ma chérie.
Mais moi, je ne me promenais pas les fesses à l'air.
Non, le string n'existait pas à notre époque. Tu aurais aimé en porter ?
Avec une micro-jupe ? Pour faire du vélo ? Certainement pas.
Micro-jupe ? On ne les appelle plus mini ?
D'après ta petite fille, en dessous de 20 cm, c'est une micro.
Toujours cette manie de changer le nom des choses. Oh, j'espère que Violette n'en met pas avec juste un string. C'est un appel au viol, ça.
Il me semble qu'elle a des collants opaques en dessous. Mais je croyais que c'était charmant sur la cycliste.
La cycliste, oui, mais pas ma petite fille.
Pour tordre le cou aux stéréotypes, le collectif féministe contre le viol rappelle, je cite, que l'âge moyen et l'apparence extérieure, dite attirante, beauté ou séductrice, mini-jupe, maquillage, talons hauts, ne sont en aucune façon des facteurs déterminants dans le choix par l'agresseur de ses victimes. Par ailleurs, dans 74% des cas, la victime connaît son agresseur. Fin de citation. Néanmoins, nombreux sont les politiques qui souhaitent protéger les hommes de leurs pulsions agressives, comme le ministre ougandais de l'éthique et de l'intégrité, Nasba Bouturo, qui demandait en 2008 l'interdiction de la mini-jupe, accusée de causer de nombreux accidents de la route en distrayant les conducteurs. D'après lui, ce vêtement peut causer des accidents chez des personnes faibles. Un propos qui prêterait à sourire si on ne savait que par ailleurs, l'Ouganda est un pays où une autre proposition de loi visant l'homosexualité réclamait la peine de mort pour les récidivistes. Ce dernier article a été retiré en février 2012. Tout aussi récemment, la Pologne, l'Indonésie, la France même, pour certains corps de métier comme la magistrature, ont également eu la tentation d'interdire la mini-jupe. 50 ans après sa création, la plus grande révolution du XXe siècle en matière de mode reste toujours subversive. Mais cette révolution date-t-elle réellement du XXe siècle ? La jeune fille d'Egved arbore un petit haut, manche trois quarts, laissant le ventre nu et une jupe taille basse de 38 cm. Cette tenue très sobre, en laine noire, est égayée par un disque de bronze de 15 cm de diamètre, maintenu par une ceinture et qui se porte en dessous du nombril. Cette jeune fille nous présente la mode danoise de l'année 1390 avant Jésus-Christ.
Sa tombe a été retrouvée en 1921 dans le Jutland. Elle attirerait pourtant moins l'attention aujourd'hui dans la rue qu'une dame en crinoline ou en robe à panier avec perruque poudrée.
Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe, mini moche et lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini mini ça manque d'air. Mini jupe et mini moque, miniature de quoi je me moque.
Au fil de l'histoire, Patrick Légibel, révolution dans les 60s, la mini jupe, de Caroline de Kergariou, avec Juliette Roudet, Grégoire Beaujat, India Hare, Delphine Rich, Juliette Alain, Frédéric Cantrel, Caroline Espargilière, Célim Saber et Jérôme Fauvel. Bruitage Bertrand Amiel, présentation Stéphanie Duncan, prise de son, montage et mixage Alison Ascrizzi et Jean-Richard Dufour, assistante Chloé Mauduit, réalisation Christine Bernard-Sugy. Une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.fr.
Moi je préfère les maxi, maxi moque et maxi jupe, maxi moche et maxi pute. Il est maxi docteur Schweitzer, maxi maxi ça respire l'air, maxi terre et terre maxus, maximum et maxi bus, maxi terre et terre maxus, maximum et
Des nuits de France Inter, c'est avec Jean Lebrun qui vous propose la rediffusion de La Marche de l'Histoire.